toujours Manon Bruet en direct de d'Offprint pour Du Radio. Nous accueillons à présent notre nouvelle invitée qui est Rémi Faucheux de RVB Books. Bonjour.
Bonjour.
Donc RVB Books est à la fois une maison d'édition et un lieu d'exposition. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, enfin de vos parcours d'ailleurs, puisque c'est une maison d'édition que tu as créée avec Mathieu Charron.
Exactement, on a créé tous les deux RVB Books. Les premiers livres sont sortis en juillet 2011, donc on a à peu près 8, plus ou moins 8 ans d'existence entre le démarrage et la conception des premiers livres. On a créé cette maison d'édition à un moment où il y avait à l'étranger on a l'un et l'autre travaillé précédemment dans la photo, le graphisme, et on a vu à l'étranger émerger des nouvelles maisons d'édition avec une nouvelle pratique du livre. Il y avait encore assez peu d'acteurs en France, donc ça c'était la première raison qui nous a motivés. La deuxième, c'est qu'il y avait aussi toute une génération d'artistes qui étaient en dehors des circuits, des expositions et des lieux d'exposition, qui sont à Paris principalement des lieux de consécration d'artistes vraiment très établis, voire morts. Il y avait peu de place pour une jeune génération qui avait d'autres problématiques en dehors des dimensions politiques et documentaires. Et c'était toute cette génération d'artistes qui expérimentait beaucoup avec l'image, qui avait une pratique qui incluait la photographie, mais aussi plein d'autres choses, l'installation, la performance, la sculpture. Donc on avait envie d'accompagner toutes ces générations d'artistes pour qui le livre était devenu un peu une évidence parce qu'ils n'avaient pas accès à l'exposition, donc c'était un moyen d'expression qui les intéressait, et la singularité du livre correspondait bien à leur démarche d'artiste.
Donc vous éditez principalement des livres d'artistes chez RVB Books, ou seulement des livres d'artistes?
Oui, ça s'apparente à des livres d'artistes, ouais, exactement. On a pu faire des livres en lien avec des expositions, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, les livres aient leur indépendance, qu'ils puissent exister en dehors d'une exposition. Ce n'est pas juste retracer un travail qui a été montré sur les murs, et le livre est là pour juste cataloguer des œuvres. Il faut qu'il ait vraiment son autonomie en tant que livre, même si la plupart des travaux qu'on a édités, à part quelques-uns qui sont exclusivement pour le livre, la plupart peuvent exister également sous la forme d'exposition.
Et du coup, quand est-ce que vous avez créé votre lieu d'exposition? C'est venu au début ou c'est venu un peu après?
Le lieu, c'est venu quelques années après. Je pense que ça va faire 5-6 ans qu'on est installé à Belleville. On avait besoin de bureaux, et puis on a trouvé ce local dans un quartier où il y a des galeries qui nous ressemblent un peu, qui nous intéressent. Donc on a rapidement intégré ce réseau de galeries, et c'était une façon de prolonger le travail qui était fait pour le livre. Mais on n'a pas, à nouveau, on est vraiment parti du livre pour aller vers les murs. C'est pas les murs qui sont allés ensuite sur le livre. Et donc c'est juste un petit prolongement du livre.
Et les programmations de fait sont en relation entre des livres que vous éditez, enfin la programmation.
Ouais, la plupart c'est effectivement lié à des livres qu'on édite, mais de temps en temps on a des invités, des dialogues avec d'autres éditeurs ou d'autres artistes qu'on n'a pas forcément publiés.
Ok, et ensuite vous en faites un livre ou même pas?
Pas forcément.
Voilà, les deux peuvent exister un petit peu. Et du coup, vous faites ça à temps plein?
La maison d'édition, on fait ça plus qu'à temps plein, c'est extrêmement chronophage, mais on a encore des activités à côté, on enseigne l'un et l'autre, on fait du graphisme, on conçoit des livres aussi pour d'autres, que ce soit des marques ou potentiellement d'autres maisons d'édition.
Et est-ce que vous mettez en page tous les livres que vous éditez?
Alors chaque livre obéit à un modèle différent, à tous les niveaux en fait. On n'a pas un schéma unique. On va adapter une méthode de travail en fonction du projet de l'artiste. Donc il y a des artistes qui maîtrisent absolument tout et arrivent avec des projets très ficelés, une idée précise du livre, et on va plutôt accompagner sur la fabrication. Il y a des artistes qui ont envie de collaborer avec un graphiste, on est tout à fait ouvert à ça, et la plupart des livres, on est quand même impliqué dans la conception en proximité immédiate avec l'artiste.
Et donc, est-ce que c'est vous qui faites le graphisme de ces livres, ou est-ce que c'est d'autres personnes?
Non, souvent c'est nous.
Souvent c'est vous. Donc vous faites à la fois la maison d'édition, donc vous gérez la maison d'édition, l'espace d'expo et le graphisme.
Oui, absolument.
C'est un projet assez complet pour finir. Et quelle est l'économie de ce projet, en fait ? Parce que c'est souvent une question, voilà, c'est une question que je pose beaucoup aujourd'hui, parce que c'est une question qui est importante, je pense, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui aimeraient monter une maison d'édition, ou même qui en ont déjà une, et qui essayent de... Parce que vous, c'est une maison d'édition, vous avez édité beaucoup de livres, maintenant, j'ai l'impression.
Et donc, à nouveau, les schémas économiques des livres vont être vraiment différents d'un auteur à l'autre. Il y a quelques projets qu'on finance intégralement, parce qu'il y a un potentiel économique. Il y a des projets où on va avoir besoin d'une aide extérieure partielle, notamment parce qu'on fait quand même beaucoup de premiers livres, on fait beaucoup de livres avec une dimension très expérimentale. C'est des livres qui sont assez onéreux, qui sont souvent en tirage plutôt raisonnable. On tire entre... Pour les autour de 1000 exemplaires pour la plupart des livres, et c'est relativement peu, donc on est en concurrence avec des livres, donc on ne peut pas être trop cher. Donc tout ça fait qu'il y a souvent une nécessité d'une subvention. Et puis après, il y a des projets où on réfléchit différemment, on va faire des petites éditions, on va expérimenter des impressions particulières qui font que ça répond à un mode économique particulier. Et qui nous permet de faire des livres sans subvention et d'aller aussi plus vite, parce que souvent c'est la partie qui nous ralentit le plus, en fait, c'est le financement des livres, c'est de trouver un partenaire, un collectionneur, une subvention, une institution, une galerie qui va nous aider dans l'accompagnement financier de ce projet.
Et est-ce que vous allez chercher des artistes ou des auteurs, ou est-ce qu'eux viennent à vous, ou tout dépend peut-être des rencontres ?
C'est un mélange des deux, mais c'est beaucoup de rencontres, en fait. Il y a eu un projet assez emblématique comme ça, qui est Karma d'Oscar Monzon, où on a reçu un email. Alors, on n'était pas dans la même ville à ce moment-là, Mathieu et moi, et on s'est appelé le soir, on a tous les deux dit « c'est vraiment pas mal ». On l'a rencontré très rapidement après, on a fait le livre et ça a été un succès immédiat, puisqu'on a rapidement gagné le prix Paris Photo Aperture. Et du coup, la première édition s'est très rapidement épuisée, on en a fait une deuxième. Et c'est un livre qui est hyper important à la fondation de la maison d'édition. Et voilà, c'est un artiste qui était totalement inconnu, espagnol, qui avait travaillé pendant 2 ans, 3 ans dans son coin à Madrid tout seul. Et qui un jour s'est dit « je suis prêt », il envoie son projet et c'était plus que prêt. Quoi. C'était vraiment très très
abouti.
Très très abouti, ouais. Et qui était la question ? Oui, sur les collaborations. Et voilà, après, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de travailler dans la durée avec les artistes. Donc, il y a beaucoup d'artistes où on a fait un premier livre, un deuxième livre, un troisième, et un certain, on est à 7 ou 8. Donc, ça prend aussi beaucoup de place. Après, on essaie toujours d'aller chercher aussi des nouveaux auteurs. Donc de favoriser de nouvelles rencontres. Et puis après, nous, on est présent sur pas mal de salons, de festivals. Et du coup, un artiste nous présente un autre artiste. Et puis, on commence à échanger. Et puis, le projet vient 2, 3, 4 ans après.
Et tu disais que vous êtes graphiste et photographe. Est-ce que vous éditez...
Non, pas photographe.
Tu avais dit au début.
Non. Ni Mathieu ni moi ne prenons de photos.
Ah, d'accord. Et est-ce que vous éditez parfois vos objets qui sont avec vos contenus, comme c'est le cas de certaines maisons d'édition qui sont représentées ici ?
Nous, jusqu'ici, non. On a pu avoir... on ne se considère pas comme artiste, ni l'un ni l'autre. On a travaillé, en revanche, sur des livres d'archives où les artistes... on a fait 2 livres comme ça, 2 ou 3 livres, où les artistes n'étaient plus vivants. Donc là, on n'avait plus d'interlocuteur avec qui échanger. Donc on s'est un petit peu accordé des libertés, mais c'est plus une liberté dans le langage d'un graphiste,
oui,
que vraiment d'un artiste.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un livre dont tu aimerais nous parler peut-être en particulier ? Donc tu l'as fait déjà avec ce livre qui a été emblématique pour vous, mais est-ce qu'il y en a peut-être...
Peut-être je vais parler du dernier. C'est une artiste avec qui on collabore depuis, je pense, 4-5 ans. Et c'est assez intéressant, c'est Penelope Umbrico. C'est une artiste américaine qui est une artiste importante, notamment dans la réappropriation. C'est une des pionnières. On ne pourrait pas dire que ce soit une pionnière, mais c'est une artiste qui compte beaucoup parce qu'elle a beaucoup théorisé et puis elle a poussé des choses loin. Et elle est dans les plus grosses collections américaines. Elle est représentée par une grosse galerie. Voilà, elle est dans beaucoup de festivals. Elle a fait des livres qui s'apparentent plus à des catalogues avec aperture. Et elle est venue nous voir par rapport à des projets très, très expérimentaux qui sont des petits tirages pour la plupart. Enfin, on en a fait un à 800 exemplaires, mais c'est des projets qui vont assez loin. Et là, le dernier, en fait, elle a donc ça, c'est très très expérimental. Ça réunit en fait le point de départ, c'est elle collectionne des photos qu'elle trouve sur Alibaba, eBay. Alibaba, c'est l'équivalent du Bon Coin, eBay, des sites comme ça, de gens qui vendent leur écran de télé ou leur écran d'ordinateur. Et ce qui l'intéressait, c'était la réflexion qu'il y avait dans l'écran. Puis après, elle a continué à accumuler ces images. Et ce qui l'a intéressé, donc le premier volume est lié à ça, qui est imprimé sur un papier journal. Donc c'est une impression qu'elle avait fait elle aux États-Unis il y a longtemps. Le deuxième, c'est une impression de où la reproduction de l'écran par rapport à la lumière devenait assez expérimentale. Et le troisième, en fait, c'était lié à un graphisme où c'est des écrans où il y a un défaut et du coup les gens l'entouraient par un petit rond, une petite flèche, un petit carré. Puis voilà, ce petit détail du graphisme. Et après, elle recadre d'une façon particulière. Et surtout, on imprime où elle intervient directement sur la presse, donc c'est très spectaculaire. Elle réinjecte de l'encre, elle vient mettre du, par exemple, elle a mis des encres fluo directement dans les conteneurs d'encre en offset. Donc tous les livres deviennent uniques et avec un ancrage qui est vraiment très particulier que moi j'avais jamais vu. Donc voilà, ça nous tient à cœur. C'est un livre, c'est un véritable ovni. C'est un livre qui est impossible à vendre en librairie parce qu'il ne se tient pas, il n'est pas relié. Sans quelques clés d'explication, c'est incompréhensible. Mais c'est un livre qui va intéresser quelques collectionneurs. On a pu en faire juste 100 exemplaires parce qu'on a récupéré différentes choses. Et puis, de toutes ces expérimentations, après, on trie énormément pour garder. Donc, on est arrivé à... Je crois qu'il y a une vingtaine d'épreuves d'artistes, mais sinon juste 100 exemplaires. Et voilà, donc ça, c'est un peu des choses qu'on veut continuer de faire, des collaborations comme ça sur des projets très spécifiques, très expérimentaux, qui sont économiquement pas forcément très viables, mais qui nous nourrissent toujours de pratiques un peu alternatives dans ce qu'on peut faire dans le livre.
Et vous avez... je reviens juste un petit peu à la question de... au modèle économique ou plus largement à la question de la structure, parce que vous êtes deux fondateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes deux seulement à travailler ou vous avez une équipe derrière vous pour vous assister dans tous ces événements ou...
On est tous les deux. Après, ouais, on a plein de... Il y a des collaborateurs donc il y a, qui peuvent être sur la partie éditoriale, sur la partie du graphisme. Parce que parfois, il y a des textes, il y a des choses qui sont longues à mettre en place. Donc, on s'épaule de personnes. Donc, selon les projets, on va chercher des gens, en fait. Pour le moment, on adorerait avoir toute une équipe, mais on n'a pas la solidité financière encore pour le faire. On réfléchit à avoir quelqu'un à temps partiel à moyen terme, mais pour le moment, on est tous les deux.
Bah, c'est aussi ce qui est intéressant dans le fait de multiplier les collaborateurs, c'est de multiplier les expériences.
Voilà, et exactement.
De
multiplier... C'est aussi ça qu'on aime, ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, alors ?
Non, moi je suis heureux comme ça, j'ai envie de continuer comme ça. Il n'y a pas de volonté, on n'est pas à la recherche de quelque chose de particulier.
D'accord, très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve du coup à 19h avec Olivier Lebrun qui viendra nous parler de sa maison d'édition Yellow Pages qu'il a fondée avec Ours Lenny. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.